RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. Des milliers d'Israéliens ont manifesté hier face au bureau de Benjamin Netanyahou.
Une mobilisation pour s'opposer au limogeage du patron du renseignement intérieur israélien, Ronen Bar, devenu ces dernières années la bête noire de Benjamin Netanyahou, qui écarte un à un ses opposants et qui continue d'ordonner des bombardements sur Gaza. Reportage dans l'enclave palestinienne en début de journal. Nous serons aussi à Bruxelles, où avait lieu hier un Conseil européen spécial marqué par des divergences persistante sur le soutien à l'Ukraine. Dans ce journal aussi, les réactions à l'Assemblée nationale en France après les réquisitions du parquet contre Boualem Sansal en Algérie. 10 ans de prison ferme pour l'écrivain franco-algérien. Le dossier de ce 8h avec une première présidente pour la Namibie. On fera l'état des lieux de la place des femmes en politique sur le continent africain. Et puis leur préservation est une question de survie pour l'humanité, rappelle l'ONU. La première journée mondiale des glaciers, c'est aujourd'hui.
Benjamin Netanyahou met ses opposants hors d'état de nuire.
Et on ne parle pas là du Hamas, mais du patron du renseignement intérieur israélien, Ronen Bar, prié de faire ses valises. Son limogeage a été validé à l'unanimité cette nuit par le gouvernement israélien, sur proposition de Benjamin Netanyahou, avec qui Ronen Bar entretenait des relations tendues depuis des années. Le futur ex-patron du Shin Bet avait notamment dénoncé les violences récurrentes des colons israéliens en Cisjordanie. Il accuse également Benjamin Netanyahou d'entraver des enquêtes sur les liens de plusieurs de ses proches collaborateurs avec le Qatar. Dimanche prochain, le gouvernement israélien doit entamer cette fois une procédure d'éviction contre la procureure générale de l'État, Benjamin Netanyahou, qui fait donc le ménage et qui ordonne toujours plus de raids à Gaza. 504 morts depuis mardi dernier et des ordres d'évacuation qui appellent la population à bout à quitter les zones dans lesquelles elle survit. À Gaza, reportage de Rami El-Maghari avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
À peine réinstallé durant la trêve avec sa famille sur les ruines de sa maison à Beit Hanoun, au nord-est de la bande de Gaza, Nidal doit de nouveau repartir.
Les forces d'occupation ont lâché des tracts pour nous dire que nous étions désormais en zone de combat dangereux et que nous devions quitter immédiatement Beit Hanoun, qui est désormais classé zone rouge, de peur qu'ils ne commettent de nouveaux massacres et de nouveaux carnages contre la population. Tous les habitants de Beit Hanoun sont partis.
Une nouvelle errance dans le territoire en guerre. Pour le moment, les déplacés de Beit Hanoun se dirigent vers l'ouest de Gazaville et campent sur la côte, comme Azhar et ses enfants.
J'ai tellement peur que la guerre à grande échelle reprenne comme avant. La trêve nous a offert un court répit. On a pu souffler un peu, même si on a tout perdu, y compris notre maison. Mes enfants sont très jeunes. Ils ont tellement souffert durant cette guerre. Ils sont terrifiés. Et à présent, les bombardements reprennent et nous obligent à fuir à nouveau.
L'armée israélienne a également appelé la population à évacuer une zone dans le sud de la bande de Gaza, une région qui sert, selon elle, aux groupes armés palestiniens pour tirer des roquettes contre Israël. Rami El-Merali, Gaza, Sami Bourchet, Jérusalem.
Et c'est une rare prise de parole. Le président israélien Isaac Herzog a pris ses distances ces dernières heures avec Benjamin Netanyahou. Il est impossible de ne pas être profondément troublé par la dure réalité qui se déroule sous nos yeux, a déclaré Isaac Herzog, sans citer nommément le premier ministre israélien.
Au Soudan, l'armée soudanaise a pris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum.
C'est ce qu'affirme ce matin la télévision soudanaise et plusieurs sources relayées par l'agence de presse Reuters. Depuis près de 2 ans maintenant, un conflit sans merci oppose le commandant de l'armée et dirigeant de facto du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, à son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des forces de soutien rapide qui occupaient le palais présidentiel depuis le déclenchement de la guerre. On fera le point dans le prochain journal.
Direction Bruxelles, où avait lieu hier un Conseil européen spécial.
À l'issue duquel Emmanuel Macron annonce la tenue jeudi prochain à Paris d'un sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Le président français veut rassembler et finaliser un soutien à court terme à Kiev. Nicolas Fellmann, vous êtes avec nous en direct de Bruxelles. Bonjour.
Bonjour Jeanne.
Alors la Hongrie a refusé hier soir de signer le texte collectif de soutien à l'Ukraine, mais les dirigeants européens se sont accordés en revanche sur un objectif, rendre l'Europe plus compétitive.
Oui, face à la guerre commerciale de Donald Trump, face à la concurrence de la Chine, les 27 ont listé leurs priorités. Pour être plus compétitive, l'Europe doit d'abord, dit la conclusion finale du sommet, poursuivre son choc de simplification. Les dirigeants de l'UE réclament donc moins de normes, moins de règles pour tous les secteurs de l'économie. Cela va de la sécurité à la défense. La défense, c'était l'autre grand dossier de ce Conseil européen. Les 27 appellent à accélérer la mise en œuvre du plan de la Commission pour réarmer l'Europe en 5 ans. Un texte final qui souligne la nécessité d'investir dans la défense. À Bruxelles, c'est justement sur ce point que des lignes de fracture sont apparues hier, avec d'un côté les États dits frugaux, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Pour eux, pas question de s'endetter à nouveau, même pour financer la défense. À l'inverse de la France, de l'Espagne ou de l'Italie, qui plaident, eux, pour un emprunt commun.
Nicolas Feldman, en direct avec nous de Bruxelles.
Et voilà qui ne devrait pas apaiser les fortes tensions des derniers mois entre la France et l'Algérie.
Le parquet d'un tribunal près d'Alger a requis hier 10 ans de prison ferme à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Hier soir, Emmanuel Macron a dit souhaiter une issue rapide pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Et à l'Assemblée nationale, en France, les appels à sa libération sont unanimes, même si l'analyse des cause de la crise n'est pas la même selon le bord politique, Victorien Villaume.
Les insoumis pointent du doigt en particulier la stratégie du bras de fer revendiquée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, Sébastien Delogu.
On aurait pu régler ce problème de façon diplomatique et malheureusement la porte de la diplomatie s'est fermée suite aux agressions perpétuelles qu'a effectué Bruno Retailleau envers le pouvoir algérien.
On critique aussi la méthode gouvernementale au RN mais avec un argument inverse, un prétendu manque de fermeté. Philippe Ballard.
Quand ce pouvoir algérien n'aura a fait un vrai bras de fer avec ses responsables politiques qui ont beaucoup plus à perdre que la France dans ce bras de fer, les choses s'éclairciront un peu.
Si les socialistes ne goûtent pas, eux non plus, la méthode Retailleau, ils dénoncent avant tout l'attitude du régime algérien. Arthur Delaporte.
Même si l'on condamne l'instrumentalisation politique qui est faite en France des relations franco-algériennes, rien ne justifie de priver de sa liberté un individu.
Boualem Sansal est devenu l'otage des difficultés diplomatiques entre les deux pays, déplore également Pierre Cazeneuve du camp présidentiel.
Il n'a pas à en subir aujourd'hui les conséquences et donc j'espère qu'il y aura une réaction à tous les niveaux de l'État.
Ces réquisitions tombent alors qu'à la fin du mois dernier, Emmanuel Macron a appelé Alger à régler le cas Sansal pour rétablir pleinement la confiance entre les deux pays.
Victorien Villaume, et le jugement sera rendu par le tribunal le 27 mars prochain.
RFI 7h08 à Londres, l'aéroport Heathrow fermé jusqu'à la nuit prochaine.
Et on cause un incendie à proximité de l'aéroport le plus fréquenté d'Europe. Environ 70 pompiers étaient à l'œuvre cette nuit dans l'ouest de Londres. De nombreux vols ont été déroutés vers Paris Charles de Gaulle et vers Londres Gatwick, l'aéroport d'Heathrow qui restera fermé en raison d'une coupure de courant provoquée par l'incendie survenu dans une sous-station électrique située à proximité d'Heathrow.
Elle a reçu hier de nombreuses félicitations.
Et notamment celle de Vladimir Poutine qui a adressé ses sincères félicitations à Kirsty Coventry après son élection à la tête du Comité international olympique. L'ancienne nageuse zimbabwéenne va remplacer l'Allemand Thomas Barr. La Russie a été exclue, hein, rappelons-le, des Jeux Olympiques pour avoir attaqué l'Ukraine. Seuls 15 athlètes avaient pu concourir au JO de Paris 2024 sous bannière neutre.
Et on parle à présent d'une autre dirigeante.
La direction la Namibie ce matin, avec une première dans le pays, mais pas sur le continent. Netumbo Nandine Taidoa devient officiellement aujourd'hui présidente, 6e femme à diriger un pays africain. Et c'est le dossier de ce 8 heures. Bonjour Christina Okolo.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Christina, cette accession au sommet de l'État marque-t-elle un tournant sur le continent?
Bah écoutez, cette arrivée d'une 6e femme à la tête d'un État africain est une avancée, mais le chemin vers le sommet a été semé d'embûches pour Netumbo Nandine Taidoa à cause d'accusations de fraude d'abord, accusations portées par l'opposition à cause de la bataille au sein de son propre parti, le SWAPO. Lors des primaires, elle a dû batailler pour imposer sa légitimité en tant que femme, enfin à cause des mentalités sexistes, d'après Toko Matshe, féministe sud-africaine.
C'est à la fois une avancée majeure et un symbole qui peut sembler creux. La nature et la structure du pouvoir en Afrique restent profondément patriarcales. Lorsque des femmes parcourent les couloirs du Parlement et qu'on les appelle ma chérie ou des choses comme ça, cela leur retire leur pouvoir. L'élection de Netumbo Nandi Ndaitwa relève davantage des dynamiques politiques namibiennes que d'un véritable tournant vers une présence accrue des femmes à la tête des États africains.
put in as presidents.
Et pourtant, Christina, sur le continent, il existe des quotas pour assurer la présence féminine dans les cercles de pouvoir.
Oui, mais avec un effet parfois pervers. C'est le constat de Sakile Sifelani Ngoma. Elle est directrice exécutive de WIPSU, un organisme qui œuvre pour l'influence politique des femmes au Zimbabwe.
Les partis ne ressentent plus le besoin de pousser des femmes à briguer des sièges au scrutin direct car leur présence au Parlement est assurée par ces quotas. Les candidates sont cantonnées à ces sièges, ce qui réduit leurs chances d'accéder à des postes plus influents.
Au Zimbabwe, malgré une femme vice-présidente, Joyce Mujuru, le pays n'a jamais connu de femme présidente. Ailleurs, ce sont des candidates en campagne que leur mari ou leur parti empêchent de se présenter. Écoutez Nick Cheeseman, politologue.
Certaines femmes politiques ont été séquestrées par leurs maris pour les empêcher de s'inscrire aux élections. D'autres ont été délibérément induites en erreur par leur propre parti, envoyées dans des lieux de vote erronés lors des primaires, tandis que les véritables élections se déroulaient ailleurs. Et une fois en campagne, elles sont souvent accusées de prostitution, simplement parce qu'elles sont vues tard lors de réunions avec des hommes, une étape pourtant essentielle dans la course électorale.
Et alors, que faudrait-il, Christina, pour accélérer encore plus la participation des femmes en politique?
Les experts s'accordent à dire que des réformes profondes sont nécessaires. Il ne suffit pas d'instaurer des quotas. Il faut également changer les mentalités et les pratiques au sein de partis et de la société. Car au rythme actuel, il faudra encore 130 ans pour atteindre la parité dans les décisions politiques au plus haut niveau, selon un rapport des Nations Unies.
Merci, Christina Okello, du service Afrique d'RFI, votre dossier du 8h, qu'on retrouve d'ores et déjà sur RFI.fr.
Aux États-Unis, Donald Trump signe l'arrêt de mort du ministère fédéral de l'Éducation.
Un projet attendu, applaudi par la droite américaine qui doit encore obtenir l'aval du Congrès. Aux États-Unis, l'éducation relève largement des autorités locales, mais Donald Trump avait étrié pendant sa campagne le ministère fédéral de l'Éducation, accusant l'institution d'endoctriner les enfants. Les conséquences de ce décret présidentiel devraient surtout peser sur les zones défavorisées ainsi que sur les élèves ayant des troubles de l'apprentissage. Donald Trump, ouvertement climato-sceptique et qui dirige pourtant l'un des pays qui pollue le plus de la planète. C'est aujourd'hui la première journée mondiale des glaciers. 274 531 sur tous les continents et aucun n'échappe au réchauffement climatique. Aux confins de l'Ouganda s'étend la vaste chaîne de montagnes du Rwenzori, une chaîne de montagnes qui abrite l'un des tout derniers glaciers du continent africain. La glaciologue Edith Sévestre a participé à une expédition organisée par l'UNESCO en février dernier. Elle est l'invitée d'Anne-Cécile Bras aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des images, des photos prises sur place de ce glacier en 1906. Il y avait un photographe italien, Vittorio Sella, qui avait fait des photos. Donc on a des preuves de l'étendue passée du glacier, bien avant qu'on ait des satellites. Et on estime la perte de masse totale des glaciers des Rwenzori aux alentours de 90%, voilà, depuis cette période-là. Le glacier du plateau du Stanley perd plusieurs mètres d'épaisseur chaque année, hein. C'est extrêmement rapide, mais grâce au radar, il semblerait, alors on n'a pas encore publié les résultats, faudra le faire bientôt, il semblerait qu'il y ait une zone où il y a encore bien 50-55 mètres d'épaisseur de glace, donc il y a un petit champignon de glace quelque part, ça permet aux glaciers d'en avoir encore un petit peu sous le coude, mais malheureusement c'est des glaciers qui sont voués à disparaître à terme.
Et vous retrouvez la glaciologue Edith Sévestre et ses collègues dans ses pas du vent cet après-midi, 14h10 heure de Paris, 13h10 temps universel. Et puis un mot de football, quart de finale aller de la Ligue des Nations, la France a sombré hier face à la Croatie, 2-0 pour le 166e match de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Les Français qui voient leur chance de qualification pour la suite de la compétition sérieusement compromise, Cédric De Oliveira.
C'était le 166e match de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France et ça restera un mauvais souvenir pour le sélectionneur qui a tenté d'expliquer cette défaite sans appel contre les Croates.
On a commis beaucoup trop d'erreurs techniques, d'approximation et un adversaire... Déjà qu'il y a de la qualité, quand on lui donne des opportunités, elle nous a punis. Il n'y a pas grand-chose qui m'a plu.
Fébrile et complètement dépassé, les Bleus ont pris une leçon de football. Menés 2-0 à la pause, ils ont un peu réagi ensuite, mais sans parvenir à marquer, malgré les efforts de leur capitaine Kylian Mbappé. Son coéquipier Matteo Guendouzi tente de s'accrocher à des choses positives.
On aurait peut-être dû faire beaucoup plus chacun individuellement sur la première mi-temps. Le plus important, c'était de renverser ça sur la seconde mi-temps et il y a des lueurs d'espoir pour le match retour.
Les Bleus déjà tournés vers ce match retour dimanche au Stade de France. L'attaquant Randal Kolo Muani est convaincu qu'ils peuvent tout renverser.
Vite se remobiliser pour être prêt au match retour à la maison. Je sais qu'on est plus à l'aise avec nos supporters et je pense qu'on fera mieux à domicile.
Deschamps et ses hommes ont du travail pour éviter une nouvelle désillusion. La dernière fois que les Croates sont venus au Stade de France il y a 3 ans, ils étaient repartis avec la victoire. Cédric de Oliveira, Split, RFI.
Et le match retour, ce sera dimanche.
Merci Jeanne Bartoli. RFI Matin continue. Avec la revue de presse internationale et avec vous Catherine Potet, à la une, une nouvelle information inquiétante pour l'humanité.
Un nouveau cri d'alarme lancé ce vendredi par l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale. Les glaciers du monde perdent 3 piscines olympiques chaque seconde, titre le quotidien espagnol El País. L'OMM met en garde contre une avalanche de conséquences en cascade. La préservation des glaciers n'est pas seulement une nécessité environnementale, économique et sociale, c'est une question de survie, alerte Céleste Saolo, le secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale. L'une des conséquences les plus graves de cette réduction de la couverture de glace concerne l'approvisionnement futur en eau de certaines régions de la planète, notamment en Asie, puisque les glaciers agissent comme de gigantesques réservoirs d'eau. Quant aux effets en cascade, El País explique par exemple que le recul de ces zones gelées peut conduire à la formation de lacs qui peuvent à leur tour provoquer une instabilité des pentes et des crues soudaines. Le Monde, de son côté, souligne que plus de 2 milliards de personnes dépendent directement des stocks des montagnes pour leur approvisionnement en eau potable, approvisionnement pour les installations sanitaires, leur agriculture ou encore leur énergie. Toutefois, tout n'est pas encore perdu, quelques signes d'espoir demeurent. Selon l'évolution des émissions de CO2, certains glaciers peuvent encore être préservé, assure El País.
À lire également ce matin dans le Washington Post, un éditorial virulent contre la politique économique de Donald Trump.
C'est Farid Zakaria, journaliste à CNN, américain d'origine indienne, qui prend la parole dans les colonnes du quotidien américain. Et il clame que le rêve industriel de Trump est un mirage. Le président américain est convaincu, dit-il, que la clé de la transformation des États-Unis réside dans la relance des usines et des fonderies à travers le pays. L'idée que l'Amérique devrait produire davantage est séduisante, poursuit Farid Zakaria. Nous imaginons tous un pays riche et puissant, doté d'immenses usines qui crachent de la fumée, produisent des marchandises et les vendent au monde entier. Cette idée est profondément ancrée dans nos esprits, mais c'est une image du passé et non de l'avenir. Pourquoi ? Parce que les économies les plus avancées du monde sont aujourd'hui presque toutes dominées par les services, explique le journaliste américain. Pour lui, la tentative de relancer l'industrie manufacturière par le protectionnisme revient à défier les principes économiques fondamentaux.
Enfin, panique dans les airs après un incendie à l'aéroport Heathrow à Londres.
L'aéroport est fermé, plus de 1000 vols sont affectés après une panne de courant provoquée par un incendie, titre le Guardian. Le quotidien britannique précise que l'aéroport sera fermé jusqu'à ce soir minuit. De nombreux vols sont détournés vers Paris ou vers Shannon en Irlande. La fermeture d'Isro se fait sentir dans le monde entier, selon le Guardian qui a interrogé Neil Hansford, un spécialiste du trafic aérien basé à Sydney. Selon lui, il ne faut pas trop compter sur les autres aéroports de Londres comme Gatwick et Stansted. En effet, explique-t-il, ils ne peuvent pas accueillir un volume comparable à celui des 5 terminaux d'Heathrow où il y a une arrivée toutes les minutes. C'est catastrophique pour le trafic aérien, poursuit Neil Hansford, qui met en avant 2 problèmes principaux. Comment les passagers déroutés parviendront-ils à Londres et comment résoudre le problème du carburant? Les compagnies ont l'habitude de se ravitailler à Heathrow, qui sera donc inaccessible, alors que les autres aéroports ne pourront sans doute pas ravitailler tous les avions supplémentaires. L'aéroport le plus fréquenté d'Europe a fermé ses portes au petit matin, annonce de son côté le Times. Des centaines de milliers de passagers vont voir leur projet bouleversé. La journée s'annonce donc chaotique dans les airs et les aéroports de nombreux endroits du monde.
RFI vous la racontera. Merci Catherine Potet, bonne journée. Les conservateurs en rêvaient, Donald Trump l'avait promis et il l'a fait. Aux États-Unis, hier, le président américain a signé un décret visant à démanteler le ministère de l'Éducation, pris pour cible par la droite américaine, notamment parce qu'il s'assurait du respect des politiques d'inclusion et de diversité. Rendez-vous au tribunal, prévient déjà le leader du principal syndicat enseignant, une profession qui vote majoritairement démocrate. Mais pas seulement, certains professeurs se sont réjouis du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et dans la banlieue d'Atlanta en Géorgie. Édouard Maille a pu les rencontrer avant la signature du décret d'hier. Reportage.
Le groupe d'amis, presque tous des enseignants, est réuni dans un bar pour un jeu de culture générale. Steve, 39 ans, enseigne les sciences au lycée dans un quartier populaire. Il avait voté pour Joe Biden il y a 4 ans, mais a décidé de soutenir Donald Trump à la dernière élection.
Dans son plan, il a promis ou s'est engagé à dissoudre le ministère de l'Éducation pour réduire les dépenses du gouvernement. Je trouve que ce qu'a fait le pays avec ce ministère est terrible pour les élèves en général, car je pense qu'il y a des endroits où l'argent fédéral pourrait être mieux dépensé pour améliorer les écoles. Mais la façon dont ils le font, en essayant d'avoir les mêmes standards pour tous les élèves dans chaque État, est irréaliste. Chaque État devrait s'en occuper, car ils comprennent mieux les besoins de leurs élèves et de leur district.
Un avis partagé par Kurt, 72 ans, les cheveux brossés en arrière, le professeur de physique se réjouit aussi du discours de Donald Trump contre l'enseignement de sujets liés au genre, aux personnes LGBTQ+, ou aux minorités.
Ce qui se passe avec l'éducation depuis des années et pendant la dernière présidence, elle devient de plus en plus « woke ». Au lieu de se préoccuper de ce qui est le mieux pour l'enfant, pour son apprentissage et qu'il réussisse dans la vie. Quand j'étais enfant en primaire, ma seule inquiétude était d'apporter une pomme au professeur, apprendre à lire et profiter de ma journée à l'école.
Mike, 42 ans, un bonnet enfoncé sur la tête, enseigne à l'école primaire dans des classes pour élèves en difficulté. Il préfère ne pas dire pour qui il a voté, mais il ne pense pas voir de changement avec Donald Trump.
I don't know if he'll possibly make school better. There might be some changes.
Je ne sais pas s'il pourra améliorer l'école. Il y aura peut-être des changements pour nous aider. Je touche du bois. Mais je ne sais pas s'il y aura des différences. Ça dépend de ce que fait notre comté, de ce que fait notre État. Ça peut changer à l'échelle nationale. Mais je pense que le comté a le plus d'influence.
Le financement du gouvernement fédéral menacé par Donald Trump représentait seulement 14% du budget total des écoles primaires, collèges et lycées publics pour l'année fiscale 2022. Le reste provient des États ou collectivités locales, mais les fonds de Washington servent aussi à aider des établissements dans des régions plus pauvres où les difficultés scolaires sont plus importantes. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
Reportage international aux États-Unis à retrouver sur RFI.fr. Et un coup de fil à Londres avec le dénouement au tribunal d'une affaire sordide qui a fait la une au Royaume-Uni. Un jeune homme de 19 ans vient d'être condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 49 ans. En septembre, Nicholas Prosper a assassiné 3 membres de sa famille, sa mère, son petit frère et sa petite sœur. Avant d'être arrêté, bonjour Emeline Vin.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Si le fait divers est particulièrement sinistre, il a permis d'éviter un massacre encore plus grand, c'est ce qu'a révélé le procès de Nicholas Prosper.
Et oui, après avoir assassiné sa mère et ses frères et sœurs, le jeune homme projetait une fusillade de masse dans son lycée. L'enquête a dévoilé une préparation effarante, méticuleuse. Nicholas Prosper s'était procuré un fusil de chasse. Il avait cartographié son lycée, étudié de nombreuses fusillades dans des écoles américaines et comptait perpétrer la pire attaque du genre dans un établissement britannique. Au moins 30 morts, dont lui-même. Même la date n'avait pas été choisie au hasard, le vendredi 13 septembre, ce qui aurait donné un nom mémorable à son projet, la tuerie du vendredi 13. Parce que oui, la seule motivation de Nicholas Prosper, c'était la notoriété. Il n'était pas harcelé, il n'avait pas de motif de vengeance. Son but, vraiment, c'était de commettre une atrocité qui deviendrait célèbre, comme les tueries de Sandy Hook ou de Columbine aux États-Unis.
Et depuis plusieurs mois, depuis même quelques années, ce genre d'affaires se multiplie au Royaume-Uni.
C'est vrai, on pense en particulier à la tuerie de Southport en juillet dernier où un adolescent a poignardé 3 petites filles dans un centre aéré avec la violence pour seul but. Rien que cette semaine, un jeune a été arrêté en Écosse après avoir projeté de reproduire une tuerie de Columbine dans son école, sans parler des innombrables attaques au couteau perpétrées par des adolescents. Les rapports d'enquête qui fuitent dans la presse montrent souvent des jeunes qui ont consommé énormément de contenu violent en ligne. Le programme antiterrorisme Prevent, chargé de détecter et d'enrayer la radicalisation, fait état d'une hausse des signalements de 2% sur un an.
Justement, Emeline, avec plus de signalements, est-ce que ces tueries ne pourraient pas être évitées par les services antiterroristes ?
Alors, dans le cas de Nicolas Prosper, il n'y a pas eu de signalement. La tuerie n'a été évitée que parce que le jeune homme s'est rendu à la police après l'assassinat de sa famille. Dans les autres cas, le problème, on l'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie, du moins pas d'autre idéologie que la violence. Or, le terrorisme, c'est la violence à des fins politiques. Donc en fait, les programmes chargés de prévenir les attentats terroristes ne peuvent pas faire grand-chose contre cette forme de radicalisation. Alors le gouvernement a envisagé de modifier la définition même du terrorisme. Au final, c'est trop délicat d'un point de vue légal, donc il travaille actuellement à légiférer pour que les tueries de masse et la préparation de tueries de masse dans un but uniquement violent soient traitées avec la même sévérité que les actes terroristes. Évidemment, ce travail législatif pourrait prendre encore plusieurs mois.
Emeline Vin à Londres, merci, bonne journée. Et dans les dessous de l'Infox, ce matin, le Canada en pleine tension avec les États-Unis, alors que des élections législatives anticipées sont annoncées pour le 28 avril, des photos discréditant le nouveau Premier ministre libéral Mark Carney ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux, fabriqués de toutes pièces dans la foulée d'une campagne de désinformation contre lui. Olivier Four, c'est toujours le même procédé, faire apparaître le candidat libéral devenu Premier ministre en compagnie de personnalités sulfureuses.
Oui, et c'est précisément une photo qui a retenu notre attention. Elle est apparue mi-mars, elle fait penser à une photo de vacances. On y verrait Mark Carney assis sur une chaise de plage aux côtés de l'acteur américain Tom Hanks et de Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein. Epstein, le tristement célèbre homme d'affaires et criminel, accusé d'avoir réduit en esclavage des dizaines de jeunes filles au profit de la haute société américaine. Ce prédateur sexuel, pour rappel, a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019, alors qu'il attendait d'être jugé pour trafic de mineurs. Mais son image toxique est régulièrement employée sur les réseaux pour discréditer tous ceux qui sont prétendument apparus à ses côtés. Pareil pour l'image de son ex, Ghislaine Maxwell, donc considérée comme la co-organisatrice du trafic et condamnée à 20 ans de prison en 2022 avant de faire appel.
Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de montages mettant en scène Epstein avec des personnalités.
Oui, fin janvier déjà était apparue une photo trompeuse censée montrer le Premier ministre canadien, Mark Carney, aux côtés de Jeffrey Epstein, dans la piscine de la propriété du milliardaire. Cette image non datée avait été relayée par plusieurs comptes de la sphère pro-Trump. On estime qu'elle a été vue plus de 200 000 fois rien que sur X. La photo est apparue lorsque l'ancien Premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa démission, lançant ainsi la course à la direction du Parti libéral. Cette photo est devenue virale peu après la victoire de Mark Carney à la tête du parti le 9 mars dernier.
Et à y regarder de près, il est facile de déduire que cette image a été fabriquée par intelligence artificielle.
Oui, même si cette image est plutôt bien faite, ses auteurs ont par exemple volontairement dégradé la qualité pour brouiller les pistes. Mais si on s'attarde sur l'arrière-plan, on distingue plusieurs incohérences. Les filles en maillot de bain dans la piscine ont le visage déformé et l'avant-bras de l'une des baigneuses a une forme de S qui ne correspond pas à la réalité. Constat similaire sur la photo de Tom Hanks et Ghislaine Maxwell. Là encore, les doigts sont déformés et une partie du siège est manquant sous la cuisse droite du Premier ministre canadien, Mark Carney. Enfin, si on effectue une recherche par image inversée, on s'aperçoit aussi que cette image a déjà été partagée en ligne et qu'elle porte en bas à droite la mention Grok. C'est la signature de l'intelligence artificielle générative d'Elon Musk.
Oui, mais comme souvent, Olivier, il y a toujours une part d'ambiguïté dans cette infox.
Oui, car en effectuant des recherches poussées, on retrouve une photo a priori authentique de Mark Carney à deux pas de Ghislaine Maxwell. Cette photo a refait surface sur les réseaux en janvier 2025, mais en fait, elle date de 2013. Mark Carney, alors gouverneur de la Banque d'Angleterre, avait été photographié lors d'un festival avec sa femme, Diana Fox, et d'autres personnalités de la société mondaine britannique, dont Ghislaine Maxwell. Lors de la republication de ce document, l'équipe de campagne de Carnet a démenti tout lien, affirmant que Carnet et Maxwell ne sont pas amis.
Olivier Four pour Les Dessous de l'Infox, merci beaucoup. Et Les Dessous de l'Infox, l'émission, c'est ce soir comme chaque vendredi à 17h30, temps universel. Le journal dans moins d'une minute, à tout de suite.
RFI à Bilbao, 97.5 FM. Bissau, 94 FM. Un jour au village, Penaï Traoré.
Que faire du bois d'EVA une fois que les plantations arrivent en fin de cycle? En Côte d'Ivoire, un programme de recyclage a été initié pour transformer le bois d'EVA en bois d'œuvre et en bois d'énergie, ce qui garantit des revenus additionnels pour certains producteurs.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.